Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Au menu de cette émission, un éditorial en forme d'incitation à écologiser les conseils municipaux. La belle rencontre concerne Emmanuel Pesseres, un architecte atypique. Le sujet qui fâche examine en quoi le logement n'est pas un garage, avec Sophie Ricard, architecte, et Jean Harari, architecte. L'un comme l'autre s'avère exigeant envers le sens de leur métier et refuse tout ce qui pourrait en altérer l'esprit. Enfin, un coup de cœur, Nicolas Tarade, journaliste, a lu Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité, et questionne son auteur, en l'occurrence, votre humble serviteur.
Urbanité, l'édito.
La victoire des écologistes aux récentes élections municipales de mars et juin 2020 ne se compte pas seulement en voix, d'autant que les abstentionnistes sont nombreux, ce qui relativise leur score, mais par le remplacement de l'ancien organigramme par un nouveau qui adopte l'écologie comme méthode, de méthodos en grec, avec odos qui signifie la voix. Si l'écologie est une voie, elle doit privilégier, et ce, quel que soit le sujet traité, le processus, la transversalité et l'interrelation. Aussi, les prérogatives attribuées aux adjoints ne sont plus thématiques. L'école et la scolarité, le logement, le transport et les mobilités, l'économie, la propreté, mais transversaux. Les temporalités, la solidarité, la participation, etc. Les décisions ne relèvent plus de la verticalité souvent pyramidale du pouvoir, mais de la collégialité horizontale à laquelle sont invitées les associations citoyennes et sont entendues toutes les paroles habitantes. À mes yeux, 4 à 5 élus, tout terrain, invente une nouvelle répartition des tâches et conséquemment une nouvelle manière de penser et de faire. Chacun, chacune, anime un ensemble d'élus comme autant de capteurs des réclamations, des propositions, des rêves des citadins, petits ou grands, d'ici ou d'ailleurs. Il n'y aurait plus Madame Déplacement ou Monsieur Sécurité, mais les membres d'une seule équipe misant précisément sur le processus, la transversalité et l'interrelation pour satisfaire les demandes des habitants avec leur concours, tout en contribuant chacune et chacun à la réflexion collective. Dans un tel schéma, tout élu consacre une journée par semaine à la lecture du même ouvrage qu'il discute avec ses collègues. En quoi ce livre me fait comprendre ce que je dois entreprendre? En quoi vient-il réorienter ma conception et enrichir mes propositions? Pourquoi lire un ouvrage sur l'éthique de la Terre, par exemple, moi qui m'occupe de la scolarité? Justement, en m'incitant à intégrer au domaine scolaire la découverte du milieu, les classes nature, les séjours à la campagne, où l'on herborise, dessine les arbres, collecte les fleurs, cueille les fruits, et aussi cuisine ce qui a été récolté dans le jardin de l'école. Espérons que les villes, dorénavant administrées par un maire ou une maire écologiste, montrent l'exemple. Il en va de même pour tout gouvernement, comme le suggère en 2018 Carlos Petrini. Nous savons que cet Italien est l'initiateur du Beauvau Slow Food en 1986. Et il invoque un ministère de l'alimentation, qui devient également celui de la santé, de l'agriculture, du mieux-être, des villes et des campagnes. Donc un super ministère, sous l'intitulé simplement de ministère de l'alimentation. Prenons Paris comme exemple. La maire, Anne Hidalgo, s'entoure de 37 adjoints. Je laisse de côté leur très correcte rémunération et celle de leurs collaborateurs pour m'attarder sur leur intitulé, qui sont révélateurs de l'absence de vision unitaire. Une dizaine d'entre eux, urbanisme, construction, chantier, politique de la ville, code de la rue, propreté, accessibilité, logement, transition écologique et climat, végétalisation des espaces publics, etc., pourraient travailler de concert sous la même dénomination, l'urbanité. De même, la santé, l'obésité, l'alimentation durable, drôle d'appellation, devraient relever du même pôle, celui du bien-vivre. Parmi les nouveautés, un élu à la Seine, bonne idée, déjà émise par l'association La Seine n'est pas à vendre, qui lui attribuait les ponts, les rives, la navigation, les relations avec l'amont et l'aval du fleuve, ses représentations, ses métiers spécifiques, sa faune et sa flore, son patrimoine, etc. Une élue pour Paris 2030, 2050 ou 2100 aurait été préférable à mon avis, compte tenu du dérèglement climatique, des mouvements migratoires, de l'obsolescence programmée des équipements, etc., et qui s'occuperait également du patrimoine, car le futur est un présent à venir, se transformant inéductablement en passé. Un élu au tourisme et à la vie nocturne, pourquoi pas, qui devrait aussi s'intéresser aux fêtes, aux événements culturels, aux musées, à la qualité de l'accueil de l'autre, aux migrants, qui sont des touristes en exil. etc. Là aussi, des regroupements sont envisageables au sein d'une délégation à l'hospitalité, à laquelle la culture serait rattachée. Laissons la ridicule ville du quart d'heure pour confier à cet élu le quotidien urbain, avec la politique temporelle des territoires qui harmonise les temps sociaux, horaires des administrations, transporteurs, employeurs, et les temps individuels, chronobiologie des humains comme celle du monde vivant. Sachant qu'il y en va de la santé publique comme des économies d'énergie, de la qualité de l'air, des rythmes scolaires, du ménagement des lieux à partir de la chronotopie. La chronotopie, c'est l'étude de l'usage temporalisé des lieux urbains, sachant que la nuit n'est pas le jour, le lundi, le mercredi, et l'hiver, l'été. Du genre et aussi des cinq sens. Bref, le social est curieusement absent du casting parisien. Là devrait être créé un pôle entraide, tout comme les enfants, qu'on ne peut réduire à une question de droit, voire le manifeste « La ville des enfants et des jeunes, une ville pour tous ». Lorsqu'on écologise son esprit, il n'est plus possible de découper la réalité en tranches, car tout est lié, ce que confirme la récente pandémie du Covid-19. Un conseil municipal qui place au cœur de ses réflexions et actions l'écologie se trouve gêné par l'ancien schéma thématique. Aussi doit-il audacieusement expérimenter la voie d'une alternative qui exalte le processus à transversalité et l'interrelation, non seulement pour rendre intelligible notre monde complexe, réorganiser tous les services, mais aussi et surtout pour offrir au possible les conditions de leur déploiement. Espérons que les maires de Poitiers, Strasbourg, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Besançon, Tours, Annecy, Colombes et de quelques autres villes ouvrent une nouvelle voie en écologisant leurs services municipaux et en expérimentant de nouvelles modalités politiques pour une démocratie écologique soucieuse du cas par cas et de sur-mesure. Ce chantier gigantesque est compliqué, mais ô combien stimulant.
Eric Satie, on n'en dit pas plus, on écoute.
Urbanité, la belle rencontre.
La belle rencontre avec notre invité Emmanuel Pesserès, architecte, mais vous êtes aussi anthropologue avec une recherche menée en Australie et un post-doc à l'Institut de géoarchitecture de Brest sur la contribution à la possibilité d'une architecture aborigène. On n'en parlera pas. Je vous ai invité surtout pour comprendre un peu qu'est-ce qui vous a finalement incité à être un architecte, non pas exerçant en libéral, comme c'est souvent le cas, mais devenu fonctionnaire municipal. Votre titre à la mairie de Reny-sous-Bois, une commune de la banlieue parisienne de 45 000 habitants environ, mérite qu'on s'y arrête. Vous êtes le directeur recherche et innovation. Alors, Emmanuel, pourquoi recherche et pourquoi innovation ?
Bonjour Thierry Paco, merci de l'invitation. J'étais très intéressé, très touché de votre introduction. Pourquoi recherche et innovation ? Cette direction a été créée il y a bientôt 10 ans et avait exactement les buts et les principes que vous avez soulignés et peut-être, j'espère, redynamisés dans votre première partie. Nous ne sommes pas une direction d'architecture au départ, nous sommes une direction qui a pour but, vocation, à l'époque prévoir, anticiper et puis maintenant surmonter les difficultés liées au changement climatique, à l'épuisement des ressources et aux changements sociétaux et sociaux qui en découlent. Et pour cela, l'idée, c'était vraiment cette idée de transversalité. C'était l'idée, et là j'ai beaucoup aimé cette solution, de faire lire des livres à des gens qui, a priori, n'avaient pas de connexion avec le sujet, mais dans une conception qui nous guide jusqu'à maintenant, qui est la conception écosystémique, de bien faire comprendre que tout est lié. C'est le principe des grands cycles écologiques et c'est bien sûr les principes de la systémique et encore plus de l'écosystémique. Donc nous sommes bien une direction qui au départ a proposé aussi bien d'aller vers une monnaie complémentaire pour anticiper les grands krachs boursiers à venir, donc une monnaie complémentaire à l'échelle municipale mais peut-être plus largement, une direction qui a proposé d'utiliser l'argent public afin de réinventer la relation marchande avec son territoire, donc essayer de relocaliser tout ce qui pouvait être relocalisable par l'action publique qui est une grande partie du PIB, par la commande publique, et par exemple d'indiquer et de rechercher comment on pouvait construire, et ça a été le débouché principal, des bâtiments à partir d'un territoire proche, alors qui n'est pas le territoire de la ville, mais qui est le territoire, grosso modo, de l'Île-de-France.
Donc les matériaux que vous allez utiliser viennent d'à côté, les matériaux, si possible.
Oui, les matériaux, la main-d'œuvre, la culture aussi, ce qui est très important, la culture constructive. Et quand celle-ci n'est pas présente, d'où l'idée de recherche, on la crée et on essaye de l'installer sur le territoire. Donc c'est un rapport entre ce que peut apporter au territoire la commande publique et ce que peut rendre la sphère privée à ce territoire.
Alors, vous avez quand même été, j'allais dire, un peu gonflé de commencer par une école construite en paille. Ça, c'est quand même assez exceptionnel en banlieue parisienne.
C'était une des premières, oui, effectivement. On était en même temps que Montreuil et un petit peu après, ici, les Moulineaux. Alors, en région parisienne, oui, en proche banlieue, peut-être que c'est un peu gonflé, mais on a des champs à 12 km. À Montfermeil, on avait encore des champs de blé. Et puis la paille, elle est quand même une des grandes ressources de l'Île-de-France. Alors pas la paille pour elle-même, puisque on fait du blé pour se nourrir, et c'est l'intérêt, un des intérêts de la paille, c'est que la paille n'est que le produit subséquent de la nécessité de faire du grain pour faire du pain.
Alors comment ça a été reçu, cette école en paille, par les élus, par les habitants même, et puis par le corps enseignant ?
Comment ça a été reçu ? Alors au départ, on a quand même...
Parce que quand même, on pense tout de suite aux trois petits cochons.
Oui, alors même pas...
La maison en paille, on souffle dessus, hop, elle s'envole. C'est pas du solide, quoi.
Oui, effectivement. Mais au départ, on n'est pas dans un niveau culturel où la paille ne peut être compris comme un matériau de construction. Donc nous, on a plutôt dit qu'on allait travailler avec les biosourcés.
D'accord.
Donc le temps qu'on comprenne déjà ce changement de paradigme, que d'aller vers des éléments de biosourcés, bon, à part le bois qui était déjà bien inscrit, mais dont c'était le grand retour aussi, on a eu le temps d'expliquer que la paille était un matériau plus que bénéfique pour les habitants, notamment au niveau santé, isolation, mais aussi plus que bénéfique pour le territoire, et que construire en paille, c'était finalement s'inscrire dans une longue durée, puisqu'une première maison en paille a été faite à Montargis, la maison Feuillette, et à plus de 100 ans. Donc la solidité était déjà éprouvée. Et puis si on remonte un peu plus longtemps sur une autre technique qui nous est chère, qui est la paille porteuse, on peut aller sur du 120, 130 ans hein, de durée, durabilité.
Donc c'est du solide, la paille.
C'est du solide et du durable, c'est tout. Et pour employer un mot à la fois à la mode et à la fois très galvaudé.
Alors finalement, vous êtes pour le BTP, bois, terre, paille.
Oui, complètement. Mais pas dans n'importe quelles conditions. Voilà. La paille, nous la voulons bio et nous la voulons issue d'un modèle économique qui ne détruit pas la terre ni le social. Donc nous la voulons bio et nous la prenons chez un paysan boulanger qui donc fait du bien en même temps à l'alimentation, vous l'évoquez, en même temps qui fait du bien à la construction. Et le bio fait du bien au sol. Le bois, nous le voulons issu, et c'est un travail qu'on mène mais qui est à la fois à son début et qui est, je pense, prometteur, d'une sylviculture douce et pas d'une sylviculture industrielle où on asservit le biotope forêt à la nécessité de construire. Un exemple assez classique, c'est de faire des grandes forêts de résineux monospécifiques et d'en faire des usines à bois. Voilà. Donc nous, non, on veut aller utiliser et essayer d'être dans un échange avec le biotope forêt en prélevant ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui peut être en surplus ou ce qui peut même gêner le développement du biotope forêt en cueillant, en ramassant avec des techniques douces, notamment avec le débardage à cheval, éventuellement avec de la taille à la main, pour essayer d'avoir le moindre impact possible sur l'écosystème, parce que c'est ça notre mission de service public. J'ai passé un peu vite sur votre première question. Pourquoi je suis pas libéral? Je dirais pour être libre. Voilà, j'ai très tôt eu le sentiment que, et peut-être l'envie, de ne pas lier ma capacité à faire bouillir la marmite, pour être rapide, à ma pratique professionnelle, et particulièrement une pratique professionnelle qui est l'architecture, qui impacte si fortement l'urbain, la façon dont on vit, l'urbanité, mais aussi notre environnement. Parce qu'à un moment donné, et c'est normal, on serait peut-être amené à faire quelques concessions, des concessions que je n'estimais pas nécessaires pour dans ce cadre-là, qui est un cadre trop précieux.
Alors, votre réflexion sur le service public est aussi liée à une de vos lectures.
Oui. Effectivement, quand je me remémore d'où est venu ça, quelque chose me vient assez vite à l'esprit, qui est le livre de Michel Ragon, qui est, dans l'ordre, je crois, L'architecte, le prince et la démocratie. Voilà, qui est un livre qui est de 77-76. Enfin, vous préciserez. Il explique comment le Corbusier notamment, mais pas que lui, cherchait sans arrêt son prince. Et son prince pouvait être un vrai prince, mais pouvait être aussi un haut fonctionnaire, un ministre, Malraux par exemple. Et ça m'a semblé pas correspondre à mon caractère et assez dérisoire comme démarche. Donc je me suis dit que le mieux, c'était peut-être que l'architecture ne soit pas une marchandise et que la commande vienne directement du bien commun. Alors le bien commun, je ne l'imaginais pas aussi clairement à l'époque qu'aujourd'hui, mais le bien commun, pour moi, c'était des gens qui se mettaient ensemble qui votaient pour un programme, qui votaient pour une proposition et qui donnaient de l'argent pour la réalisation de cette proposition. Une démocratie, en quelque sorte. Et puis, le bien commun, il s'est fortifié dans la science quand on a constaté que le premier bien commun, c'était notre écosystème. Donc voilà, c'est cette conjonction de lecture et d'enrichissement qui m'ont fait aller vers directement un service au public et vers un travail direct sur le bien commun.
Alors, quelles sont vos relations avec les architectes libéraux de Rosny et des alentours?
Eh bien, j'en ai assez peu. Ce que nous essayons de faire, c'est de profiter de cette liberté et de ce devoir de conserver l'écosystème pour mener des expériences telles que la construction en paille porteuse. Alors, c'est même plus de la paille, là, c'est de la paille qui porte, qui a été déjà fait il y a 130 ans, oublié, redécouvert. Et là, on a donc fait un bâtiment en rez-de-chaussée en paille porteuse, puis un bâtiment en R+1 en paille porteuse pour montrer qu'on pouvait très bien se passer de ce bois qui était assez précieux, parce que l'intérêt de la paille, c'est que c'est un renouvellement très rapide et que le bois beaucoup moins. Donc autant utiliser la paille comme elle peut l'utiliser, à la fois comme isolant et à la fois comme porteur. Et ça, on a directement avec l'ADEME un projet de recherche que l'on mène et dont on va sortir les résultats et qui va, j'espère, et qui déjà aide mes confrères à s'ouvrir des horizons, à surmonter les obstacles qui sont souvent des obstacles réglementaires et puis à se dire que de toute manière, il va bien falloir changer les choses parce que le système tel qu'il est va dans le mur. Donc, essayons de se prendre en main et proposons des choses.
Et vous n'êtes pas des fois découragé en regardant quand même à quel point les bétonneurs sont puissants à l'échelle planétaire?
Oui, complètement. Écoutez, le découragement ne mène pas à grand-chose, donc nous menons notre chemin. Nous sommes assez heureux de rencontrer plein de gens qui adhèrent et qui nous encouragent et qui participent à cette démarche. Donc non, le découragement n'est pas utile à notre démarche, donc nous n'en tenons pas compte.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, Thierry.
Et bonne route.
Merci.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Le logement n'est pas un garage, voilà le sujet qui va fâcher peut-être. En 1984, Ivan Illich, pour les 150 ans du Royal Institute of Baltic Architects, prononce un discours intitulé « L'art d'habiter », dans lequel il explique que l'art d'habiter est une activité qui dépasse la portée de l'architecte, qu'habiter, c'était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. Que ceci s'avère de plus en plus difficile, car les communaux ont été confisqués et que dorénavant tout s'achète sur le marché, y compris le chez-soi. Il note, non sans amertume, que l'espace vernaculaire de la maison est remplacé par l'espace homogène d'un garage humain. Les habitants occupant l'espace qu'ils modèlent ont été remplacés par des résidents abrités dans des constructions produites à leur attention, dûment enregistrés en tant que consommateurs de logements, protégés par la législation sur les contrats de location ou sur les prêts hypothécaires. C'est une phrase très forte, évidemment, que je soumets à l'attention de nos deux invités. Sophie Ricard, après une licence d'histoire de l'art à la Paris-Sorbonne Nouvelle, tu effectues tes études d'architecture à l'école d'architecture de Versailles, avec une année passée à la Sapienza à Rome. Après le diplôme de 2009, tu rejoins Construire, de Patrick Bouchain et Loïc Julienne, et est affecté à Boulogne-sur-Mer pour réhabiliter 60 maisons ouvrières et éviter qu'elles ne deviennent des garages. Que peux-tu nous dire de cette première expérience ?
Eh bien, merci Thierry pour ce beau sujet. Cette expérience, ça a été mon école. Ça a été l'école après l'école où, effectivement, je me posais beaucoup la question de la rénovation urbaine, de l'ANRU qui se passait sous nos yeux d'étudiants, là, cet ANRU 1, et qui venait comme ça dévaster, on va dire, la trace d'un passé, la trace de l'histoire de notre civilisation, en se disant que le logement qu'on a conçu dans les années 60 n'était pas forcément bien conçu, et donc qu'on allait aujourd'hui le détruire pour faire autrement, sans se poser la question, justement, de la question d'habiter. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Ivan Illich, laisser la vie quotidienne tisser les réseaux de sa propre biographie. C'est tout à fait ça qu'on est en train d'annihiler quand on voit se dérouler ces opérations de démolition-reconstruction. Et donc, Boulogne-sur-Mer, c'est la, on va dire, c'est la, ça a été pour moi l'école, l'enseignement que je n'ai pas reçu forcément en école d'architecture. J'ai pu le mettre en pratique en habitant le terrain même du projet à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'était une petite rue de 60 maisons type cité ouvrière, cité de transit construite dans les années 70 pour ne pas durer et qui, bien comme tous les grands ensembles, ont duré et qui a fait l'objet presque d'un moratoire par l'action politique qu'a mené Frédéric Cuvillier pour éviter la démolition de ces maisons qui accueillaient une population en grande précarité, très marginalisée, qui ne se sentait plus appartenir à la ville de Boulogne-sur-Mer. Et donc, à côté de ces grosses opérations en rue sur le plateau du chemin vert qui se déroulaient depuis une dizaine d'années à Boulogne-sur-Mer, on a décidé de sortir du conventionnement avec l'État cette petite rue en se disant qu'on allait prendre le risque d'autofinancer cette opération avec les fonds propres de l'Office public d'HLM pour permettre de faire une expérimentation un peu autrement, de réparer petit à petit en acupuncture ces maisons avec les habitants qui vivaient sur place sans opération tiroir et de prouver que l'appropriation, que entretenir une maison, habiter une maison, c'est une valeur d'usage et que le locataire a forcément un droit de regard sur cette valeur d'usage et sur son appropriation et qu'il fallait le révéler et éviter l'uniformisation dans le logement social. Ce qu'on a réussi à faire, c'est faire du cas par cas, c'est travailler avec chaque foyer, chaque famille sur la manière d'habiter de chacun pour éviter l'uniformisation. Et on a pu le faire parce que moi-même, en tant qu'architecte, je suis devenue habitante de cette petite rue et en étant habitante, j'ai pu vivre un quotidien avec ma façon de vivre et comprendre les autres façons de vivre de mes voisins. Et donc, à partir de cette relation qui a été retissée, qui malheureusement n'est plus tissée, plus tangible dans la commande publique classique telle qu'elle est faite aujourd'hui et dans les procédures classiques telles qu'elles sont faites, on a pu réinterpréter la commande et se saisir de cette commande comme outil, comme levier de l'action pour l'action de notre démocratie locale et faire participer les premiers concernés par le logement social, qui sont les locataires, et leur conférer une vraie responsabilité de gestionnaire de leur maison.
Alors, ce qui est très bien, c'est le film documentaire qui a été réalisé par Jacques Kébadian en 2014, qui s'appelle « Construire ensemble la rue Auguste Delacroix ». Je précise que c'est bien Auguste et pas Eugène. Hein, c'est un peintre aussi, mais né et mort à Boulogne. Et là, dans ce film, c'est très, très émouvant. Et j'imagine, Sophie, que tu n'as pas été sans être frappée émotionnellement par les rencontres que tu as pu faire sur place. Parce que c'est quand même des gens qui sont toujours déconsidérés par la société et qui, là, sont tout à fait étonnés qu'on leur demande leur avis sur la couleur du revêtement, sur les matériaux qu'ils souhaiteraient avoir pour retaper leur maison. Il y a là quelque chose, quand même, qui a dû profondément te bouleverser.
Oui, ça a été une expérience humaine fabuleuse et donc on a des liens très très forts avec ces personnes et ce territoire. Donc on est encore les invités de toutes les fêtes et on a de la chance d'avoir des Boulonnais qui viennent nous rendre visite sur le territoire breton aujourd'hui. Donc oui, ça m'a considérablement construit. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Patrick Bouchain à cette époque. Il m'a donné l'occasion de me mettre à disposition de cette expérimentation. Et effectivement, on s'est rendu compte quand on arrivait là-bas. D'une part, il fallait arriver avec une très grande humilité. D'une part, moi, je sortais de l'école, donc je ne savais absolument pas construire. Et on est arrivé dans une rue qui avait été tellement délaissée, comme tu le dis, par les pouvoirs publics, qu'il y avait une forte appropriation. Et donc ça, on a rarement vu ça quelque part en France. Donc c'était une cité qui était devenue une zone de non-droit, mais qui était fortement appropriée par ses habitants, de par le fait que chacun avait construit des extensions dans les jardins, chacun s'était approprié jusqu'au seuil, jusqu'au trottoir devant sa maison. Tout le monde avait repeint ses façades, tout le monde avait cassé plus ou moins des cloisons à l'intérieur pour réidentifier son lieu de vie un peu autrement en fonction de la famille qui grandissait, de l'accueil de la grand-mère qui revenait au rez-de-chaussée, qui ne dormait plus en haut dans les étages, etc., etc. Et donc, nous, il a fallu composer avec tout ça. Et moi, j'ai appris à ça. J'ai appris ça. J'ai appris à regarder, à écouter, à comprendre les modes de vie et à me dire que c'est aujourd'hui… Peut-être qu'il faut travailler sur cette réversibilité de notre patrimoine. Et on ne peut plus considérer le logement social comme une action, comme, ou le bailleur comme un hébergeur. Il faut absolument que le bailleur social retrouve un rôle déjà son rôle social et le rôle aussi qui permet au locataire de se sentir identifié dans son chez-soi, de lui permettre l'appropriation de sa maison, de lui redonner cette valeur d'usage et même de capitaliser sur la façon dont la responsabilité d'un locataire à l'entretien de son logement peut justement éviter au bailleur d'avoir recours à de l'entretien de manière plus régulière, etc. On pourrait même imaginer que le bailleur social retrouve une maîtrise d'usage et de gestion, on va dire, des parties extérieures, des espaces publics qui seraient donnés peut-être en gestion aux locataires du logement social. Il faut retravailler sur ce lien entre logement, travail, loisirs. On ne peut pas séparer les choses. Et quand on a produit du logement social en masse en France, on a séparé ces choses-là. C'est ce qui annihile la condition de l'individu dans la ville. Et donc, voilà. Et ce qui a été très, très riche, c'était de dire, voilà, on a pu faire, on n'a jamais uniformisé, on a fait un logement pour, on a fait 60 logements pour 60 maisons qui correspondent à 60 foyers différents, en se disant que ce qu'on aime aussi dans nos architectures, c'est peut-être la superposition des traces de vie dans un logement. Et quand on a la chance de devenir propriétaire, on aime peut-être bien acheter une maison qui a déjà eu une histoire. Et bien, pour le locataire du logement social, cela doit être la même chose. Et donc, on doit pouvoir s'approprier, faire confiance, redonner les clés, peut-être lors des chantiers qui sont un véritable… Quand on fait un chantier de rénovation du logement, c'est un outil formidable pour agréger la population, pour agréger ses locataires, pour peut-être travailler avec des gens qui sont au chômage, mais qui ont un savoir-faire. Et ce serait un alibi, une opportunité pour qu'ils puissent se ressaisir de la question de leur logement en travaillant aussi sur leur propre logement et retisser ces liens entre hébergeurs du logement social et locataire du logement social. Donc Jean, oui, ça a été très riche. Voilà.
Jean Harari, vous êtes architecte, diplômé du P6, comme on l'appelait à l'époque, maintenant Paris-Lavillette. En 1979, vous êtes auteur de très nombreux logements avec votre épouse Aline et puis votre cabinet d'architecte. Vous obtenez les cartes d'argent en 2016. Vous avez d'abord fondé l'agence Standard avec Rémi Deroche-Grébert et aussi Patrick Bouchain, que Sophie vient de citer. Puis, vous êtes architecte municipal à Blois. Et enfin, vous reprenez votre agence. Et là, vous construisez des lycées, des écoles, des facultés, mais surtout des logements sociaux, je mets des guillemets, à Pantin, Vitry, aux Mureaux, à Neuilly-sur-Marne, à Savigny-sur-Orge, à Saint-Tré, à Bagnolet. Enfin, je ne vais pas citer toutes ces villes. Sur le site de votre agence, vous vous présentez à partir de mots clés, j'allais dire, qui sont îlot, tissu, intériorité et sens du lieu. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ces termes ? Et aussi, est-ce que vous qualifierez tous les logements que vous avez réalisés de sociaux ? Parce que le fait de les qualifier de social, un logement, ne revient-il pas à finalement le déclasser par rapport à ce qui serait, pour moi, une évidence, comme ça a été dit par Yvon Illich, un logement, c'est un logement, c'est forcément un beau logement.
Oui, d'abord, merci de m'avoir invité pour essayer d'expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, les objectifs de notre travail, qui effectivement est essentiellement, mais pas exclusivement, vous l'avez rappelé, centré sur la question du logement et de l'habitat plus largement, et notamment de sa relation avec la ville. Parce que fondamentalement, si je remonte un petit peu en arrière jusqu'à la sortie de l'école, et même au moment où j'étais encore étudiant, émergeait à ce moment-là, dans les années 70, ben, vous le savez bien, toutes ces interrogations autour de la question urbaine et de la relation problématique et hautement paradoxale entre architecture et ville. Beaucoup d'auteurs se sont, expliqués sur cette question. Je ne vais pas les citer tous, mais ça nous a véritablement alimentés. Et c'est à partir de ça, donc, les quatre ou cinq thèmes que vous avez évoquées et qui ponctuent en quelque sorte notre travail et la façon dont il est présenté sur le site, ont pour vocation, je dirais, de structurer un petit peu la démarche et l'approche de la question architecturale dans son environnement urbain. D'où l'insistance sur la question de la forme urbaine, c'est-à-dire l'îlot, la question de l'intériorité, c'est-à-dire, non pas se désintéresser justement du rapport entre architecture et espace public, fondamental, mais essayer d'aller au-delà et de voir, notamment du point de vue des processus d'appropriation, et donc la place de l'habitant ou du résident, qui n'est pas simplement l'habitant de son logement ou le résident de sa cité ou de sa résidence, précisément, mais également évidemment participant de la vie collective dans son quartier et au-delà. Mais pénétrer à l'intérieur, il nous a semblé, si vous voulez, à partir d'un certain moment, d'où cette insistance sur l'intériorité, il nous a semblé que la question qui était un peu négligée, une fois qu'on avait en quelque sorte réglé sur le plan théorique la question du rapport de l'architecture à la ville, enfin, sur le plan théorique j'insiste bien parce que sur le plan pratique c'est bien différent, mais au moins sur le plan théorique, il fallait faire l'effort de pénétrer à l'intérieur du tissu, d'où ce troisième thème du tissu, tissu urbain comme constitutif en quelque sorte de l'architecture et guide en fait pour déterminer en quelque sorte les choix qui vont être faits en matière d'architecture, et enfin le sens du lieu, c'est-à-dire on est toujours quelque part. Il y a toujours une trace antérieure à notre arrivée, ne serait-ce qu'une bordure de trottoir, une clôture, un arbre, quelques arbres, une construction, même si elle est vouée à être en tout ou partie démolie, etc. Tout ça constitue en fait le fil conducteur d'un espace déjà là, et qu'il faut absolument d'abord essayer de l'identifier, de le comprendre, de l'analyser, et ensuite de s'introduire à l'intérieur de ce contexte et travailler de telle sorte que, en fait, le projet soit... alors, des fois, c'est difficile, parce qu'on est souvent confronté donc au phénomène de tabula rasa, évidemment, qui est une espèce d'a priori de... D'abord, c'était un a priori de l'architecture moderne, et malheureusement, ça dure encore. C'est-à-dire que c'est un a priori de toutes les opérations d'aménagement urbain commencent par la table rase, c'est-à-dire par effacer les traces. Comment retrouver les traces alors qu'elles ont été effacées antérieurement ? Comment éventuellement les restituer de façon peut-être un peu artificielle, mais au moins à titre d'éléments de mémoire de ce lieu, et s'inscrire dedans, de façon à établir une continuité. Et l'idée étant que notre architecture, je ne sais pas si on y réussit, doit apparaître comme étant quelque chose qui a toujours été là, en quelque sorte, ou qui pourrait avoir toujours été là. Donc c'est un peu... délicat, sachant qu'on travaille surtout sur les projets neufs, à l'inverse de ma consoeur, avec qui je partage le fait d'avoir travaillé avec Patrick Bouchain et avec Emmanuel qui m'a précédé. J'aurais bien voulu échanger avec lui. Aussi, un point commun, c'est qu'il est architecte municipal et que j'ai été architecte municipal pendant 7 ans, donc on aurait pu échanger sur cette question. En tout cas, de cause, voilà. Donc notre approche, c'est ça. C'est essayer de faire en sorte que l'architecture s'inscrive dans une continuité historique et urbaine.
Alors là, on n'a pas d'image et puis on ne va pas s'y rendre, mais est-ce que vous pourriez décrire l'opération de Saint-Jacques-de-la-Lande qui m'a vraiment ébloui quand je l'ai vue, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais qui a réalisé ça? Je ne dirai pas le nom des responsables des bâtiments aux alentours, parce que c'est aussi par comparaison que j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et puis, où sont les garages?
Absolument. C'est la problématique majeure. C'est précisément ce qui a fait débat, ce qui a été discuté, et j'imagine que la forme du projet étant ce qu'elle est, c'est très très largement la résolution de ce problème du stationnement et du garage qui explique en fait la possibilité qu'on a eue de résoudre le problème sous cette forme. En réalité, pour l'anecdote, je vous explique un petit peu. D'abord, je vous remercie des compliments sur ce projet qui nous tient énormément à cœur et qui a été d'ailleurs assez généralement apprécié, je veux dire, et reconnu pour être quelque chose d'un peu nouveau, non seulement nouveau, mais aussi peut-être une alternative à la façon dont les quartiers de maisons individuelles, ce qu'on appelle les lotissements de maisons individuelles, les maisons isolées sur leurs parcelles, etc., prolifèrent en France depuis longtemps. Là, c'était effectivement, ça pouvait apparaître comme une sorte d'alternative à cette approche. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a invité courtoisement à défendre une hypothèse sur un des îlots, un des derniers îlots d'ailleurs de Saint-Jacques-de-la-Lande, très grand îlot, parce que la conception urbanistique, donc on doit à Jean-Pierre Pranla et à Christophe Delmar, qui est paysagiste, excellent au demeurant, consistait en fait à découper en fait ce vaste territoire d'une sorte de ville nouvelle, si j'ose dire, en marge de la ville-centre de Rennes, donc Saint-Jacques-de-la-Lande, en très grands îlots d'une centaine de mètres de côté, qui pose immédiatement un problème, et ça m'a véritablement sauté aux yeux quand je me suis rendu sur place, pose le problème, en fait, de l'intérieur, encore une fois, de l'intériorité. Que faire de l'intérieur, sachant qu'on avait là un programme qu'il fallait réussir à faire entrer dans ce dispositif, qui était de l'ordre de 200 logements, qui combinaient à la fois des logements collectifs, des logements intermédiaires et des maisons individuelles. Comment faire en sorte, d'optimiser, en quelque sorte, une question technique, une question urbanistique, mais c'est par là qu'on a pris la question, si vous voulez, comment optimiser l'occupation du centre de cet îlot. Et donc, ayant visité les îlots environnants, je me suis immédiatement rendu compte, on avait déjà eu une expérience précédente un peu de même nature, je me suis rendu compte que, en fait, la solution tenait à la façon dont on avait appréhendé le problème du stationnement. Et donc, la proposition qu'on a formulée, qui a finalement été validée, c'était en fait d'éviter que les voitures ne pénètrent à l'intérieur de l'îlot, soient cantonnées à sa périphérie, donc en sous-sol, et que l'intérieur de l'îlot soit exclusivement affecté, en fait, à la distribution piétonne des résidents, de façon à ce qu'ils puissent atteindre leur logement, éventuellement déménager. Donc, toutes les maisons à l'intérieur de l'îlot sont distribuées par des venelles qui n'excèdent pas 2 mètres de large et qui produisent précisément ce que vous avez dû ressentir, j'imagine, cette espèce de très forte compacité, de très forte densité, mais en même temps, une urbanité, en
oui,
réalité.
Oui, j'ai constaté surtout que c'était qu'aucun jardin ou qu'une terrasse ne donnait sur l'autre. Donc, il y a vraiment une intériorité qui devient une intimité. Et puis, évidemment, le fait que ce soit totalement pédestre. Je voudrais demander à Sophie, Jean vient de prononcer le mot programme. Et Sophie, toi, tu fais toujours une référence au non-programme, ce que tu appelles une étude de faisabilité en acte. Est-ce que tu peux expliciter cette notion, puis Jean réagira.
Alors là, la question du non-programme, je pense qu'elle est attribuée à la réappropriation de la commande publique. Si on se dit qu'aujourd'hui, la commande publique peut être un formidable levier au service de nos démocraties locales, encore faut-il qu'elle soit bien écrite. Ça revient à ce que disait tout à l'heure Emmanuel quand il parlait de la commande publique qui vient directement du bien commun. Pour se réapproprier cette commande publique, on a mis en place ces permanences avant même l'application d'un programme qui permettait justement de faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité en acte. Une étude de faisabilité en acte, c'est au lieu de faire rentrer un programme qui serait d'intérêt général au chausse-pied dans un bâtiment existant ou sur une parcelle libre, l'idée est plutôt de se dire réapproprions-nous cette parcelle ou ce bâtiment existant, réouvrons-le aux besoins et aux envies de la population, ou pour l'exemple de Boulogne, ne faisons pas un projet uniformisé pour chaque logement qui correspond à des typologies, mais faisons un projet au cas par cas, suivant les modes de vie de la famille. Et à partir de là, c'est ce que j'appelle l'étude de faisabilité en acte, c'est-à-dire c'est vivre la chose, être sur le terrain, comprendre les besoins, tester des choses avant de partir tête baissée dans un programme qui peut-être serait obsolète dans 50 ans et ne répondrait plus aux besoins sur le long terme.
Alors,
donc,
Jean,
l'étude,
oui.
Voilà.
Jean,
oui, je comprends bien la préoccupation. on la partage tous, j'imagine. Non, la question, c'est qu'il y a une énorme aporie sur ce sujet. C'est que, notamment pour ce qui est des projets d'habitat social massif qui nous intéressent, moi, je considère que la quantité est une problématique majeure de la construction des villes. On ne peut pas, si vous voulez, se contenter d'apprendre cette approche de façon, j'oserais dire, ponctuelle ou limitée en quantité. Bernard Huet disait « La question urbaine, c'est la question de la quantité urbaine. Comment on produit la quantité urbaine et comment on fait en sorte que l'architecture, en quelque sorte, participe à la construction de la ville. L'aporie majeure, c'est qu'on construit pour des gens qu'on ne connaît pas.
À la différence et, du cas de
voilà,
Sophie.
À la différence du cas de Sophie, que je respecte tout à fait, et dont je pense qu'il est parfaitement, en l'occurrence, adapté à cette situation. Mais pour ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne, j'imagine, la majorité des architectes qui se sont voués à l'habitat social, au logement social, ou dit social, pour revenir sur la façon dont vous présentiez les choses, effectivement, il y a aussi une longue discussion autour de cette question, il est clair qu'on est situé dans cette difficulté qui consiste, en fait, à concevoir un logement pour un résident qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, ou qui sera remplacé par un autre résident assez rapidement, parce qu'il y a effectivement aussi un mouvement de rotation, qu'on peut regretter d'ailleurs, parce que nous, tout l'effort qu'on déploie, vous voyez, vise à inciter les gens, en fait, à rester et à s'approprier durablement leur logement, y compris leur logement social. Ça m'amènera peut-être, si on a le temps, à évoquer cette question du parcours résidentiel, qui est une véritable hérésie, à mon sens, et qui est une question fondamentalement politique, et qui, à laquelle on se heurte, hein, véritablement. Enfin, quoi qu'il en soit, l'idée est là, c'est comment concevoir, penser, réaliser un ensemble de logements, et non pas un seul logement, ou une addition de logements individuels, comment concevoir cet ensemble-là pour des futurs résidents que nous ne connaissons pas et par rapport auxquels on est contraint, c'est un exercice assez difficile, de projeter toute une série de propositions dont on pense que, non pas qu'elles satisferaient la totalité de leur désir d'habiter, mais qu'elles ne les contrediraient pas. C'est-à-dire qu'elles laisseraient, en quelque sorte, un certain nombre de potentialités au processus d'appropriation.
Donc, c'est-à-dire que le non-programme de Sophie correspondrait à votre programme à vous, à cette espèce de part qui serait réservée à des formes d'improvisation ou de réversibilité ou de mutabilité.
Oui, tout à fait. Ça c'est une dimension qu'on essaye d'intégrer, évidemment. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on se base aussi, parce que l'architecture est une culture, c'est quelque chose que je voulais dire à propos de notre ami Emmanuel. Si vous voulez, l'architecture est une culture, elle vient de loin, je veux dire, elle est multimillénaire. Et donc, entre autres, nous, une des références majeures dans le domaine de l'habitat et de la production de masse du logement, c'est toutes les expériences qui ont été développées dans la période de l'entre-deux-guerres, notamment en Allemagne, à Vienne, à Amsterdam, en Angleterre, etc., qui démontrent qu'il y a eu des moments dans l'histoire où les architectes, les urbanistes, mais aussi les décideurs politiques, ont été en mesure de mettre en place des dispositifs et des moyens pour produire des quantités de logements considérables qui ont fini, finalement, par démontrer leur pertinence, leur justesse, et surtout qui ont démontré qu'ils sont capables d'être, à l'inverse de ce qui s'est passé à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, avec les grands ensembles, capables de s'inscrire dans la longue durée historique. Je pense au travail de Francfort, au travail de Berlin, Vienne, j'en ai parlé, Amsterdam, etc. Toutes ces expériences démontrent qu'il y a une voie, certainement, en mesure, pour les architectes, les urbanistes et les responsables politiques, capables de produire de l'habitat dans un contexte urbain et que cet habitat, effectivement, ne soit pas voué à l'obsolescence rapide et puisse s'inscrire dans la longue durée historique.
Sophie, depuis Saint-Brieuc, le dernier mot.
Non, ben, je suis d'accord. La production de masse, c'est plus possible. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question, c'est la réappropriation de l'habitat ancien aussi, que ce soit de l'habitat des grands ensembles et de l'habitat ancien, je pense aux centres-bourgs aussi, qui ne sont plus adaptés à des typologies, à notre façon de vivre aujourd'hui. Donc, il y a la question du neuf, mais il y a aussi la question de toute cette réappropriation du déjà-là. Et là, c'est là qu'on a une responsabilité en tant qu'architecte, je pense, de se réapproprier la commande en vue justement d'accompagner nos décideurs et nos politiques à peut-être avoir des maîtrises d'ouvrage un peu plus innovantes sur ce sujet-là. Et donc, quand on parle, par exemple, de la question des centres-bourgs à rénover, qui sont très, très complexes, parce que généralement, les gens préfèrent aller grappiller sur les terres agricoles, construire leur maison à côté et ne pas revivre en centre-bourg parce qu'il manque le jardin, parce qu'il manque d'autres choses. Sauf qu'il y a des gens qui aimeraient monter des commerces, par exemple, dans le centre-bourg et qui peut-être seraient heureux de vivre au-dessus. Et donc, il y a toute cette réappropriation aussi de notre patrimoine qui existe et qui doit prouver sa réversibilité à partir de nos différents modes d'habiter, qui est fondamentale. Et comme ce sont des petites unités, là aussi, je pense qu'il y a un nouveau travail à faire. Il y a des foncières solidaires qui se mettent en place, il y a des SCIC, il y a des nouveaux modes juridiques qui commencent à apparaître. Et je pense que tout notre enjeu, il est aussi là. Il est de ne pas subir la commande, mais de pouvoir à nouveau reprendre possession on va dire, des réglementations, des marchés et trouver un peu les failles pour leur permettre d'évoluer. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la preuve par 7.
Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment trop court, hein. Faudra
Je ne peux pas
revenir,
dire un
Jean.
petit mot sur le parcours résidentiel?
Un petit mot.
Un petit mot. Bon, la doctrine officielle, pratiquement de tous les organismes qui, de près ou de loin, s'intéressent à la question du logement, c'est ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes locataire d'un logement HLM, votre destinée, votre futur est voué à devenir un accédant à la propriété. Si possible, une petite maison avec un jardin et un garage. C'est ça l'idéal. Bon, et de multiples sondages, vous le savez bien, de multiples sondages. Or, ça, c'est extrêmement pervers. C'est une perversité redoutable, parce que ça veut dire, en gros, on considère le logement social comme un lieu de passage. Et donc, on va multiplier, en fait, les dispositifs pour inciter les gens à partir. Et je peux vous le dire, nous, on a eu des observations, bon, je ne vais pas citer de nom, si vous voulez, ou d'organisme, mais on a eu clairement des observations qui consistaient à nous dire, le logement social que vous produisez, il est trop confortable.
House is a home. Even when it's dark, even when the grass is overgrown in the yard, even when the dog is too old to bark, and when you're sitting at the table trying not to start, a house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. A home, even when there's ghosts, even when you gotta run from the ones who love you most. Screen doors, broken panes peeling from the wood. Locals whisper when they're gonna leave the neighborhood. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone. Are never done, where you spend your whole life running to and from. And if the life that you live is not the life you choose, make your child a home and start anew. A house is a home, even when we've up and gone, even when you're there alone.
Voilà, c'était une très belle chanson de Ben et Hélène Harper qui s'appelle « House is a Home ». C'est tout à fait le sujet que Jean et Sophie ont développé. En anglais, il y a les deux mots. Il y a la construction, « house », et puis il y a le « chez-soi », la « maisonnée ». Voilà, donc on est un peu coincé. Hein.
C'est la particularité qu'ont les Anglais, c'est vrai, de bien désigner finalement chaque mot pour chaque action.
Oui, ben le mot « jeu », par exemple, il y a « game » et il y a « play ».
Et il y a « play ».
Voilà. Bon, bref, on
va pas discuter anglais.
Bien, on peut rendre hommage à Alan Rey, qui vient de mourir et qui était un angliciste et un dictionnariste remarquable.
Urbanité, le coup de cœur.
Eh bien écoutez Thierry Pacot, c'est moi qui vais poser les questions maintenant, pour une fois, dans cette émission. J'ai lu votre livre, Demeure terrestre, le livre, le voilà. Ici, je le montre à la caméra, Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité. Vous le publiez, Thierry Pacot, aux éditions Terre Urbaine. Vous y questionnez la façon d'habiter un monde toujours plus globalisé. Vous accordez la même curiosité, la même attention, aussi bien à la cabane qu'on a pu construire, gamin, qu'à ce que Le Corbusier appelle les machines à habiter. Les machines habitées d'ailleurs, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'il faut penser le logement collectif comme une imbrication de logements individuels, avec un rôle social clairement défini pour chaque logement dans cette entièreté, dans cette globalité?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que Le Corbusier était un homme de son temps, c'est-à-dire de la rationalité triomphante, de l'industrialisation. Et puis, comme le disait Emmanuel au début de cette émission, il cherchait toujours le soutien de l'autorité, du prince ou du dictateur, éventuellement. Bon. Et donc, il a construit des logements qui avaient la forme de quasi-abouteille, comme le disait lui-même, comme la fameuse cité radieuse de Marseille, boulevard Michelet, que les détracteurs appelle la maison du Fada. Bon, la machine à habiter, rien que le mot machine fait peur. Enfin, il suffit d'entendre Jean Harari tout à l'heure nous parler de ce qu'il a réalisé à Notre-Dame de la Lande pour voir que c'est pas une machine, évidemment. C'est le lieu et l'intériorité, et puis le tissu, et puis l'îlot, enfin, tous ces termes-là montrent bien qu'on est dans quelque chose qui relève du sensible et même de l'organique, et pas simplement qui serait un truc efficace, fonctionnel. Ce serait terriblement froid.
Un mot, enchevêtrement, on garde cette histoire, un enchevêtrement tout au long de votre ouvrage, enchevêtrement de villages, de communautés près de Bombay, en Inde, enchevêtrement conceptuel avec des penseurs comme Heidegger, enchevêtrement étymologique aussi, du mot habiter, du latin, habitare. Qu'est-ce que ça dit, ça, l'étymologie sur l'utilité de l'habitat?
L'étymologie, il ne faut pas non plus être, soumis à l'étymologie, parce que les mots changent de sens, les mots voyagent sans papier. Et donc, l'étymologie, pour moi, c'est l'état d'une pensée, parce qu'un mot désigne quelque chose. Alors, ce mot, le mot « mot », par exemple, vient du latin « mu », qui est une onomatopée, qui indique simplement ce qu'on exprimait. Bon, après, il y a des genres, il y a le féminin, il y a le neutre, pour d'autres langues que la nôtre, ou le masculin, tout ça est porteur de sens. Et c'est vrai que, du coup, quand je réfléchis à « oikos », qui va donner en grec le mot « maisonnée », donc pas le mot « maison », mais le mot « maisonnée », on va le retrouver aussi bien dans Oikos Logos, l'écologie, terme fabriqué par Ernst Haeckel en 1866 en allemand, que dans économie. Et donc là, ça nous permet de mieux comprendre les enchevêtrements, une fois encore, entre ces différentes disciplines. Alors l'étymologie, pour moi, c'est le début, j'allais dire, la mise en bouche de cette gourmandise qui est le vocabulaire.
Comment on pourrait définir les rapports entre l'humain d'un côté et son habitat de l'autre?
Alors, le mot habitat, c'est très intéressant, est d'abord un terme du vocabulaire des botanistes. Ça désigne, à partir de 1806-1807, en langue française, ça désigne le lieu propice à la production et à la reproduction d'une espèce. Le mot habitat va désigner quelque chose qui a à voir avec le logement, mais qui est plus que l'appartement, qui est aussi le logement et les chemins qui y mènent dans l'entre-deux-guerres du XXe siècle. Donc on voit bien que là, il y a toute une histoire, tout un historique qu'il faut faire de chaque terme, parce que le mot habitat, pour moi, n'est pas du tout synonyme de logement, et le logement lui-même renvoie à logique, est un terme du vocabulaire militaire. Enfin, voilà, donc on a là...
le fameux enchevêtrement.
À nouveau encore un enchevêtrement. Et je crois que tant qu'on n'est pas capable de désigner les choses par des mots, eh bien alors on peut difficilement agir sur elles, et on peut difficilement... à partir de ces choses et de ces mots, eh bien, construire un monde.
Eh bien, je rappelle le nom de votre ouvrage, Demeure terrestre, enquête vagabonde sur l'habité. Voilà, je vous le conseille, ce livre. Je rappelle que c'est publié aux éditions Terre Urbaine. Voilà, Thierry Pacot, votre ouvrage. Et puis, je vous laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est à la prochaine fois.
À la prochaine fois.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.